On est au sixième pérek. On est dans la langue Mishnah qui parle des 48 qualités qu'il faut pour acquérir la Torah. La Mishnah nous a dit que Torah, c'est plus que la Kehuna, que la Malchut. La royauté s'acquiert avec 30 qualités, la Kehuna avec 24 qualités et la Torah avec 48. Ça veut dire que pour acquérir la royauté, il faut que le roi possède 30 choses qui lui aident, 30 choses qui aident pour pouvoir exercer son pouvoir de roi. Et le Cohen, pour pouvoir exercer correctement, il faut qu'il a 24 dons qu'on lui donne. Et la Torah, pour qu'elle puisse exercer correctement, que le Chacham peut exercer correctement sa Torah, pour qu'elle réussisse vraiment bien, il faut que le Chacham, il a acquis 48 choses. Nous sommes en train d'expliquer ici les 48 choses. Alors, on était au milieu. On a parlé de Ohevet HaMeisharim et Mitrachek Mina Kavod. Au milieu de la Mishnah Vav. Alors, on continue. Velo Megis Libo Betalmudo. Il n'a pas un cœur Megis. Megis. C'est Gassoutarouach. C'est une espèce de fierté, une espèce d'orgueil, une espèce de sentiment de supériorité. Il ne faut pas qu'il monte sur son cœur un sentiment de supériorité de sa Torah, qu'il ne se sent pas supérieur à cause de sa Torah. Mais il ne sommeach behoraa. Et qui ne se réjouit pas de faire une hora'a. Ça veut dire quoi? Qu'il ne se réjouit pas de faire une hora'a. C'est quoi une hora'a? Il dit aux gens, l'alahacha comme ça, c'est permis ou c'est interdit. Il ne faut pas se réjouir. C'est-à-dire quoi, il ne faut pas se réjouir? Mais on avait dit qu'il faut étudier la Torah avec joie. Alors, connaître la Torah, étudier, analyser, arriver à une conclusion. Tout ça fait partie de l'étude de la Torah. On avait dit avant dans la Mishnah, Besimcha, la Torah, ça s'étudie Besimcha. Alors, si ça s'étudie Besimcha, la Hora'a, elle est quoi? La Hora'a, c'est la conclusion, la conclusion d'une étude. Alors quoi? Toute l'étude, il doit être joyeux. Et quand il arrive à la conclusion, il ne doit pas être joyeux. Comment? Et pourquoi il ne sera pas joyeux? La Torah, c'est quelque chose de joyeux. Alors pourquoi il ne sera pas joyeux quand il arrive à la conclusion? Le contraire. La conclusion, c'est le couronnement d'une étude. Mais Hora'a, Kaniré, c'est dire autre chose. Hora'a, ça veut dire qu'il peut imposer son point de vue. Il est une hora'a. Il impose. Ou peut-être pas l'imposer, même si ce n'est pas imposé. Le fait que maintenant les gens, ils voient ta conclusion et c'est la partie pirsum, c'est la partie de publication. Sur cette partie, il ne faut pas se réjouir. Pas sur la Torah elle-même. Qu'est-ce que ça change? Si la partie elle-même, on a le droit de se réjouir. Mais la publication fait partie de l'enseignement de la Torah. Oui, c'est l'enseignement de la Torah, oui. Mais la Hora'a, il y a un truc ici que tu dis maintenant aux gens, ça c'est la vérité. Si on se réjouit, où est le problème? Le problème, il est que peut-être on se trompait. Quand on dit que c'est permis ou quand on dit c'est interdit, eh bien, la femme, en vérité, il ne doit pas être à 100% sûr. Mais s'il n'est pas 100% sûr, il ne faut pas qu'il parle. Est-ce qu'il faut dire une halakha qu'on n'est pas sûr? Comme on dit la Gemara, הלכה זו, si elle est sûre chez toi, ka'achotra shi asura, c'est ta sœur. Amor la chokma, achotihi. Dis à la sagesse, c'est ma sœur. C'est quoi ma sœur? Tout le monde sait que la sœur est interdite à l'homme. Ça, tous les enfants le savent. Une sœur, touche pas. Alors, achotihi, si la Torah elle est claire chez toi comme ta sœur, tu l'as dit, sinon tu l'as dit pas. Donc, il faut une certaine conviction. Enfin, il faut être convaincu. Il dit oui, c'est permis. Mais quand même, il faut avoir peur qu'on se trompe. Parce que peut-être on se trompe quand même. Alors, tu ne parles pas. Non, il faut lui parler. Parce que je suis sûr. Et peut-être je me trompe. Oui, peut-être je me trompe. Mais je suis obligé de le dire, étant donné que je suis arrivé à la conclusion. Alors, s'il y en a d'autres qui sont plus racham que toi, mieux vaut que tu te tais. Mais, ou peut-être, tu dis ton avis, même si tu es plus racham, dis ton avis. D'accord, il y en a d'autres avis. Mais peut-être on se trompe, on peut toujours se tromper. Et cette crainte, il doit diminuer la simcha. C'est ça le sens de la Mishnah. Et nous sommes meyach. Tu ne dois pas être en hyper simcha. Voilà, vraiment, c'est parce qu'il y a une crainte, tu te trompes et après c'est grave. La Mishnah dit plutôt Shigga Talmud, ho les adon, se tromper dans l'étude et qui amène à une hora, se tromper dans la hora, ho les adon. C'est grave, les conséquences sont graves de dire sur Mutar Asur. Ou sur Assur Moutar, les deux, c'est grave. Faut que c'est juste ce que tu dis. Alors donc, il faut le dire, mais il faut avoir peur, comme on dit la Gemara, Shei Cheref, un épée, l'épée de Gehenon doit être devant lui, comme ça l'expression de la Gemara. Avant que d'une halakha, il faut que l'homme, il voit le Gehenon devant lui, si on se trompe. Donc ça doit diminuer cette simcha. Donc ça, c'est Eino Somer Bohora. Nose Beolim Chaviru. Une minute. L'Omegis Libo Betalmudo, Eino Somer Bohora, ça marche ensemble. Ce qui est Megis Libo Bohora, ce qui est fier, ce qui s'enorgueillise, Betalmudo, il est trop sûr de lui, il est fier. Lui, il risque d'être somerbe bohora'a et il n'a pas assez de recul et pas assez peur. Alors, c'est plus dangereux de dire une halakha. Ça marche ensemble. De ne pas être meigizli bohora'a, de ne pas être somerbe bohora'a. Nose be'olim chaviro. Il porte le joug avec son copain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi porter le joug? C'est une image. Quand il y a un taureau qui laboure, une vache qui laboure, des fois, il y en a deux vaches. Et sur les deux vaches, on met le joug, on met un morceau de bois sur le cou des deux vaches, attaché, et les deux tirent ensemble la machine de labourer. Alors, quand on tire à deux, c'est beaucoup plus facile que de tirer seul. Ça, c'est le joug. C'est une image pour toutes sortes d'aides. Une personne y porte une valise, c'est lourd. Toi, tu donnes un coup de main. Tu portes aussi un peu ensemble. Comme ça, l'autre, il porte moins. Ça, c'est pour porter une charge. Mais il y a toutes sortes de charges. Il y a des charges qui pèsent 20 kilos, 30 kilos. Il y a mille autres choses. De porter dans le sens physique, de porter dans le sens financier, faire une dépense, l'autre il a du mal de faire une dépense, tu peux lui donner un coup de main pour que la dépense sera moins, mais c'est psychologique. Donner, aider, soulager quelqu'un qui se trouve dans un besoin, qu'on le soulage, qu'on lui donne un coup de main. Alors, aider à quelqu'un, soulager, tout ça c'est non c'est be'olim chavero. Et ici, on parle pour acquérir la Torah. Donc, on est en liaison avec la Torah, ça veut dire que si l'autre ne comprend pas la Torah, tu vas lui aider, tu vas lui expliquer. ou s'il veut étudier, mais il a du mal à étudier, ils lui font une aide pour aller à la yeshiva, pour aller au Beit HaMidrash, une aide financière, une aide psychologique, une aide dans la pratique, un téléphone, etc., toutes sortes d'aides. Et ça peut être aussi d'autres choses qui ne sont pas directement liées avec la Torah. Ça peut être lié avec plein de choses que le copain il a besoin et on est nosé be'ol, on porte avec lui le joug. Le copain, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être son oncle, son cousin, le voisin, les gens de la communauté ou de loin, ça ne change pas. Nosé be'ol, on aide. Et même si ce n'est pas lié avec la Torah, c'est lié avec le bien-être global de l'autre, ça aussi, ça aide pour la Torah. Parce que la Torah a besoin des gens qui sont nosé be'ol. On dit que le Chazon Ish, quand il a fait l'école le Chazon Ish, alors il y avait les premiers 20, 30, 40 qui étaient au Kollel. Le Chazon Ish les a choisis. C'était des très forts, devenus des grands Chachamim. Et après, il y en a un qui est venu, il était moins. Alors, le Rosh Kollel, il a dit, non, c'est difficile, on ne peut pas, ça coûte d'argent et on choisit. Alors, lui, il est parti chez, il a dit, si tu veux, tu peux aller chez le Chazon Ish. Si lui, il est d'accord. Il est parti chez le Chazon Ish et le Chazon Ish, il a appelé ce qui est géré, il a dit, il le prend aussi. Alors, il a dit, Rav, mais vous nous avez dit, il faut choisir vraiment. Alors, il a dit, c'est vrai, mais il est bien dans un kollel. Il se trouve aussi un qui est très fort dans nos sebeolim chavero. Quelqu'un qui sera une image de ce qui est chesed et d'aider aux autres. Un tamid chacham qui n'a pas la madriga des autres, mais dans ça, il est fort. Ça aussi, ça fait partie, le kollel a besoin d'avoir. Donc, c'est bon, c'est quelque chose qui aide après pour l'étude. Donc, c'est bon, un égoïste qui vit pour lui, c'est pas, après ça va manquer dans sa réussite dans la Torah aussi. Machrio, le kav zechut. Il le penche vers le bien. Alors, on a déjà parlé qu'il y a une mitzvah de Betzed et Tishpotamitecha, de Melamed zechut. Machrio, le mot machria, c'est quand on a une balance, il y en a deux assiettes sur la balance, et la plus lourde, c'est elle qui descend et l'autre, elle monte. C'est quand on se trouve devant quelqu'un où il y a un doute vers ce côté et vers l'autre côté. Le doute, il peut être qu'est-ce qu'il est l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait une bonne chose ou une pas bonne chose, et on peut avoir un doute de ce qu'il a déjà fait. Il se comportait d'une certaine façon. Je peux dire, c'est bien, il voulait faire le bien, il a fait du bien, il avait des bonnes raisons. Ou je peux dire non, il n'y avait pas des bonnes raisons, et c'est tordu ce qu'il a fait. Et je peux dire, je peux avoir une image bien, ou je peux avoir une image mauvaise de lui. Et on demande machria le kav zechut. Il y a une mitzvah de machria l'autre le kav zechut. C'est fondamental. C'est dans le cas où il y a une logique dedans. Mais si la logique montre que vraiment non, il est lui tordu, c'est un problème. Sauf si tu es un tzaddik, tu es connu qui est toujours bien, malgré que maintenant il est bizarre. Là, il faut me la mettre zechut. Même quand c'est un peu difficile, quand même, probablement, il n'aurait pas fait des choses comme ça lui. Sauf s'il a une vraie raison, etc., etc. Ça, c'est pour ceux qui l'ont fait pour le passé. Maintenant, beaucoup de fois, ce n'est pas pour le passé, c'est pour le présent, pour le futur. C'est que l'autre, il se trouve maintenant dans un Issayon. Et il peut faire une bonne chose ou il peut glisser. Et toi, tu dois lui donner un coup de main pour le diriger vers le bien. Machrio le kav zechut. Mets ta main sur le côté du zechut et pousse pour que ça soit plus fort. Pousse-le vers le bien. Il a deux chemins, l'autre se trouve devant deux chemins. S'il choisit bien, c'est bien. S'il choisit mal, c'est mal pour lui. Donne-lui un coup de main pour qu'il choisisse bien. Machrio, le kav zechut. soit machria le kaf, kaf vers la main, vers l'assiette, du zchut, le mérite, pousse-le vers le mérite. Mahamido al haemet, il le fait tenir sur la vérité. Ça veut dire quoi faire tenir sur la vérité? Diriger l'autre vers la vérité. Alors, ça peut être sur un geste individuel ou ça peut être l'installation de la personne dans la vérité. Ça veut dire, il peut venir avec un chumash, avec une gemara, avec une halakha, il dit, voilà, quelle est la vérité? C'est quoi le vrai pshat dans cette gemara? Alors, Mahamido al haemet explique lui. Elle est haemet, il ne faut pas qu'il se trompe. Expliquez-lui juste qu'il comprend bien, voilà le vrai pshat. Ça, c'est pour quelque chose d'individuel. Il veut savoir une halakha, il veut savoir comment faire ici, tu lui mets la vérité. Mais le mot ma'amido veut dire plus que ça. Ma'amido, ça veut dire mettre-le debout, c'est-à-dire sur les deux pieds. Mettre le début sur les deux pieds de la vérité. Ça veut dire éduquer, lui remettre. Le mettre dans sa vie, dans le chemin de la vérité. Ma'amido al haemet. Éduquer quelqu'un d'autre dans la vérité. De lui donner, de l'inspirer, de l'éduquer, de le diriger, de lui montrer comment on vit dans la vérité et pas dans le faux. Il y a toutes sortes de faux. Faux dans la halakha, faux dans la logique. Faux de comprendre la société, des midot qui sont faussées, remettre droit pour que l'autre y vit dans la vérité. Ma'amido al haemet, ma'amido al hashalom. Et on met l'autre, et ma'amido al hashalom, et le mettre aussi dans la vérité. Non, al hashalom, la paix, pour qu'il sera en paix. Alors ici, ça veut dire le diriger vers la paix, soit qu'il y a une paix momentanément, il a un problème maintenant avec quelqu'un, et essaie de faire qu'il sera en paix avec celui-là avec qui il se dispute. Ou ma'amido al hashalom, c'est de mettre quelqu'un, d'éduquer quelqu'un dans sa vie, qu'il cherche la paix pour qu'il ne sache pas qu'il y a aujourd'hui. Pour que toute sa vie, ce sera un homme qui ne se bagarre pas avec des gens. Un homme qui a appris à faire la paix avec les gens. Il y a ici une Tosefta dans Sanhedrin qui est fondamentale. La Mishnah nous dit Ba'amido al ha'emet et Ba'amido al ha'shalom. C'est une à côté de l'autre, le emet et le shalom. La Tosefta dit qu'en vérité, ce n'est pas si pashut. Pourquoi c'est pashut? Là-bas, on parle de personnes qui viennent chez toi pour se faire juger. Alors quoi? Il faut dire la vérité. Mais si tu dis, la TSF te dit, si tu dis que la vérité, dans l'exemple de la Gemara, Yikof Adin et Tahar, eh bien, le jugement qu'il trouve la montagne, Yikof Adin et Tahar, c'est-à-dire, on passe avec la tête travers le mur, c'est la vérité, on casse la baraque. Ça veut dire, on va jusqu'au bout avec la vérité. Et si ça, il y a l'autre qui est détruit, l'autre il est détruit. Ça, c'est la vérité. C'est un problème. Si le juge fait que la vérité, souvent, après, on ne peut plus ramasser les débris. Il y a une cassure, deux associés, ils se bagarrent. Tu peux donner une raison à un à l'autre et pas à l'autre. Condamner un, donner raison à l'autre. Si tu lui dis absolument la vérité, ça détruit peut-être l'autre. Et l'autre ne peut plus se relever. Et l'associé aussi ne peut pas se relever. Et les deux sont enterrés. Et tout est foutu. Alors, il y a une autre possibilité. On peut faire la paix. On coupe la poire en deux. Chacun a raison à moitié. Ils sont tous contents. Ils ne sont pas contents parce que ceux qui avaient raison, ils se voient privés de son droit. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle une pshara, il dit Tosefta. Il faut tenir compte des deux bouts. C'est qu'il ne faut pas toujours faire la vraie vérité jusqu'au bout. Il faut aussi voir qu'il y a la paix après. Il peut travailler encore avec l'autre et qu'il ne sera pas détruit entièrement. Mais il faut qu'il y ait une vérité aussi dans ce qu'on dit. On ne peut pas faire couper la poire en deux. Chaque fois, on vient chez l'autre, on coupe la poire en deux. Alors, les gens, ils se font facile. Je vais réclamer chez l'autre 10 000 euros. Je sais que l'arabe, il va couper 5 000, 5 000. Ah ben, je vais réclamer 20 000, il va couper à 10 000. Et l'autre aussi, il le sait. Donc, à la place de réclamer 20 000, il réclame 50 000. Comme ça, il aura 25 000. Alors, moi, je demande 100. Non, ça ne marche pas comme ça. On coupe pas assez. L'arabe, il entend, il va couper. On dit, Hasbi Shalom. C'est pas ça, une pshara. Et la pshara doit être intelligente selon ce qui est le plus juste, ce qu'on peut faire. Imaginons l'arabe, il va dire, vous êtes obligé de payer tout. Alors, il dit, si c'est payer tout, je fais faillite, alors je ne paye rien, vous savez. Si je suis obligé de payer tout ensemble, je ne paye rien. Ou il s'énerve et il ne paye rien. Et même s'il a l'argent, il ne paye rien. Et l'arabe n'a pas de police pour l'obliger. Alors, l'arabe dit à l'autre, écoutez, si vous voulez tous les 100 000 euros de votre prochain, il m'a déjà dit qu'il ne payera rien. Il est tellement fâché, il ne va pas tenir compte. Et vous aurez combien? Zéro. Alors, il dit, alors, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai dit, si je demande payer de 50, il vous payera 50. Ah, si c'est vrai, des fois, c'est que tu bluffes. Hein, il faut connaître. Il faut savoir. Au moins, c'est mieux d'avoir 50 que d'avoir rien. Alors, il y a des gens qui ne sont pas capables de couper. Ils ne sont pas capables de baisser. Si c'est 98% qu'ils ont tout, et il y a 2% qui n'ont pas tout, ils réclament tout. Je veux tout et je lâcherai rien. Alors, c'est très difficile. Ce sont des gens qui étaient mamis dans la Emet. Ils ont appris les Emet, en tout cas ceux qui les concernent, peut-être même pour des autres. Ils réclament pour les autres aussi. La vérité, écrit la vérité. Et la vérité, est souvent, elle a... l'autre côté, elle n'est pas la vérité. Il y a quelque chose qui s'appelle le shalom. Et l'Anna nous dit, il faut mamis de l'autre à la Emet. Il faut le mamido à la shalom. Il faut éduquer les gens de savoir arrondir leurs angles. Si on n'apprend pas à arrondir les angles, on n'apprend pas à me vater, de lâcher. C'est vrai, il me semble, il me revenait plus d'argent, ou plus de cavode, ou plus, j'avais plus raison. C'est pas grave. C'est pas grave. On est généreux et on donne à l'autre. Il faut éduquer les gens de pouvoir faire la paix. Sinon, ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas lâcher les Emet. Et ça, c'est une grande chokhma. Ma'amidwa la Emet. Il faut ma'amidwa la Shalom. Après, la Mishnah nous dit Mityashev libo betalmudo. On est Mityashev libo. On est Mityashev son cœur betalmudo. Ça veut dire Mityashev. C'est vient de la son Yoshev. Yoshev, c'est assis. Ça veut dire quoi, assis? Il y a asseoir, il y a être debout, il y a marcher, il y a courir. La différence, elle est que s'asseoir, c'est calme. On ne bouge pas. Mityashev libo. On entend quelque chose, on doit annuler quelque chose. Lentement, ne cours pas. Tu réfléchis, tu arrives à Maskana, pas besoin tout de suite de la publier. Tu peux encore mityashev. Tu dois encore réfléchir. D'un autre point de vue, on va réfléchir ça autrement. Je regardais ce côté. Maintenant, regardons l'autre côté. Je regardais Alpi Gmara. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les postes qui me disent. Après, on va voir le cas exactement comment il est. Et comment je pourrais le réaliser dans la métier. Et comment je peux faire passer le message. Est-ce que les gens ils vont l'accepter? Dans tout, dans la pshat, dans la Gmara, et dans le pshat dans la halakha, et dans le pshat dans le comportement, et dans la réalité des choses, lentement, on va pas courir. Mityashev libo batalmudo. Shoel ou meishiv. On demande et on répond. Alors, il y a beaucoup d'explications. Il demande et il répond. C'est qui demande et qui est-ce qui répond? La même personne. On dit l'homme, Shoel ou Meshiv. Lui, il demande et lui, il répond. Mais à qui on lui demande? À l'autre. Ah, il faut l'autre, il répond. Pourquoi la Mishnah dit lui, il répond? Donc, on parle que l'autre, il a demandé. Ah, pourquoi je demande? Parce que ce n'est pas clair ce que l'autre, il a dit. Des fois, il y a des gens qui posent des questions. Ils ont une question, mais ils ne savent pas bien s'exprimer. Alors, ils n'ont pas le sujet clair, mais ils posent une question. Et tu peux tout de suite répondre. mais l'autre n'est pas capable de comprendre la réponse bien, parce que la question n'est pas claire, parce qu'il n'est pas clair dans sa question. Le sujet n'est pas clair et la réponse ne va pas être claire. Alors quoi? Shoel. Alors demande à l'autre, dis-moi exactement qu'est-ce que tu as demandé. Shoel, pour clarifier, pour que tu saches bien qu'est-ce qu'il demande, que l'autre il sache qu'est-ce qu'il demande, que toi tu comprends bien ce qu'il demande, ou meshiv. Et après tu réponds. Il y a aussi un autre pshat, Shoel, c'est que tu demandes ton maître. Quand le maître dit quelque chose, Shoel, tu lui demandes une question. Est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Ou meshiv, ça veut dire tu refutes. Tu as aussi le droit de refuter ce que l'autre il dit. Être capable de poser des questions sur l'autre, il dit, et de réfuter. Il faut être capable de réfuter. Pas besoin d'accepter ce que l'autre, il dit. Tu as quelque chose à dire. Shomeya, tu entends, tu acceptes, ou mosif et tu ajoutes. Des fois, le Rav, il dit quelque chose, tu dis quelque chose qui te. Tu dis une logique et ce n'est pas comme lui. Et des fois, tu acceptes, mais ne t'arrête pas ici. Le Rav, il a dit, c'est comme ça. Non, Mossif, ajoute une preuve, apporte une preuve pour ce que le Rav a dit. Soit refute, soit ajoute. Ne sois pas simplement comme un, ce qu'il a dit, ce que tu acceptes. Moi, pour se développer, Mossif, ajoute. Ajoute toi-même un chidouche maintenant. Alomed almenat lelamed. Et il faut apprendre avec l'intention d'enseigner. Apprendre pas pour enseigner. Ou apprendre pour lui enseigner, ce n'est pas la même chose. Qu'on apprend pour enseigner, il faut que ce soit plus clair. Palomed, amenat la asot. Et tu apprends avec l'intention de l'appliquer. La théorie, c'est une chose. La pratique, c'est autre chose. Apprendre pour pouvoir pratiquer. Amarkim et rabo, ce qui rend intelligent le maître. Il y a deux pshatim normalement. Soit le pshat, il est. Avec les questions que tu demandes, le maître, il devient encore plus racham. Tu poses une question bien fort, et le rav est obligé de réfléchir. Et le rav, il répond. Et grâce à toi, le rav est maintenant plus intelligent. Il ne l'a même pas remarqué quand il a enseigné. Il n'a pas fait attention à un point qui n'est pas clair. Et il a raconté ce que son maître lui a dit. Il t'a rapporté. Voilà, c'est comme ça, l'alakha, j'ai appris. Mais l'élève, il demande, mais voilà, j'ai une question. Ah oui, c'est vrai. C'est une question. Ah, donc on est obligé de répondre comme ça. Maintenant, l'arabe n'est plus chacham. Ça, c'est aussi, il faut que l'homme sera marqué metrabo. L'autre pshat marqué metrabo, c'est d'imaginer que le rav, il est chacham. Tu viens étudier chez quelqu'un, alors, s'il est chacham, alors, sache-le qu'il est chacham. Marquim et rabo. Ne prends pas le rav à la légère. Il est ton copain. Ça veut dire que s'il te dit quelque chose que tu ne comprends pas tout de suite, ne dis pas, bon, il dit des bêtises. Attends. Marquim, tu sais que le rav est le plus chacham. D'accord, tu n'as pas compris. Alors, c'est, ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé. Ben, c'est à toi de réfléchir où ça ne va pas. Ça ne va pas chez la parole du Rav ou ça ne va pas chez toi? Ben, si tu ne comprends pas, un grand Rav, un gadol, il dit quelque chose. Toi, tu ne comprends pas. C'est une couche sur lui. D'abord, c'est une couche sur toi. Pourquoi? Tu es tellement loin de lui que tu ne saisis pas. Il y a plusieurs étages entre toi et lui. C'est une couche sur toi. Et il te manque quelque chose dans la compréhension de la Torah. C'est la première des choses. Marquim et Drabo. Et ce qui précise ce qu'il a entendu. Mechaven, c'est quoi Mechaven? Mechaven, ça veut dire exactitude. Il faut étudier avec exactitude. Ça veut dire il faut serrer, il faut couper ce qui est en trop, il faut bien comprendre le cas, la logique, pourquoi. Pas ajouter ce qui est trop, qui est superflu, mais chaven. Il faut être exact aussi les paroles que l'arabe il a dit. L'arabe t'a dit une Mishnah, il t'a dit une halakha, les paroles telles qu'elles sont marquées dans Shulchan Aruch, telles qu'elles sont marquées dans Rambam, telles que la Gemara nous le dit. Les mots exacts et le sens exact, mechaven, avec précision. Quelque chose avec précision, rien à voir avec quelque chose qui est à peu près. C'est deux choses différentes. Au début, des fois, on ne voit pas la différence. C'est comme quelqu'un, il a une montre. Il y a une montre, toutes les montres marchent. Il y en a une qui, après 24 heures, il y a 5 minutes de différence. Et après 48 heures, il y en a 10 minutes de différence. Il y en a d'autres, des montres qui sont après 50 ans, ils sont encore à la seconde juste. Des fois, ça ne change pas, des fois, ça change beaucoup. Exact, on est à l'heure. L'heure, ça, pour beaucoup de choses, ça change. Mais il n'y a pas que de l'heure, l'exactitude. Tout dans la vie, il faut être exact. Et ce qui dit une chose au nom de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça veut dire un chidouche qui t'a entendu. Ne le dis pas en ton nom. Ne fais pas croire à l'autre que moi je l'ai inventé ça. Tu l'as entendu. Si tu sais même de qui tu l'as entendu, mieux vaut de dire de qui il l'a entendu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas seulement. Quelle est la preuve que c'est même d'autres choses, pas seulement dans le Torah. C'est la suite de la Mishnah. En nous montant, je ne sais pas si on m'entend bien, il y a quelque chose qui dérange. Tu as bien appris. Ce qui dit des choses au nom de ce qu'il a dit, parfois il apporte la geoula, il apporte un merveille, un sauvetage. Chez Neymar, on dit, alors quoi? Mordechai a entendu comment les deux gardiens de la porte, ils planifiaient de tuer Achashverosh. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a dit à Esther, Esther est partie chez Achashverosh, tu sais qu'il y en a deux qui veulent te tuer. Et ils ont vérifié, et c'était juste. Et Achashverosh s'est demandé, mais qui est le tueur? Il a dit, c'est là, le rabbin là-bas, Mordechai m'a dit. Ah bon, c'est un bon point. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inscrit dans le livre de l'histoire, ce monsieur-là, ce rabbin, il m'a sauvé la vie. Voilà, c'est un bon point. Ça change quoi? Ben, ça change l'histoire du monde. Le bon moment venu, quand il fallait quoi? Il fallait Haman et Mordechai. Haman est préparé pour prendre Mordechai. Et cette fameuse nuit, Achashverosh, il a sorti le livre d'histoire. Vaï, Matsé, Katouv, Asher, Bikdana, Teresh. Et Mordechai, il a sauvé. Et Achashverosh, lui demande, est-ce qu'on a déjà remercié à Mordechai? Non, pas encore. Et voilà, tout le monde connaît l'histoire. Alors, c'est des choses banales. Mais Mordechai, il a dit à Esther, mais je veux sauver la vie du roi. Tu dis, monsieur le roi, vous êtes en danger. Il y a quelqu'un qui vous sauve la vie. Il s'appelle comme ça et comme ça. C'est un bon point et ça peut lui sauver la vie à ce Mordechai. Et après, ça peut sauver la vie de tout le peuple. Donc, il y a des choses qu'il faut rendre à César, ce qui appartient à César. C'est ce monsieur-là qui m'a aidé. C'est important que les gens, ils savent. Oui, c'est ce monsieur-là qui a fait le bien. Je vous dis quelque chose. Un bien que la communauté va aider, et sachez, ça vient de ce monsieur. Comme ça, les gens, ils savent qu'ils doivent remercier ce monsieur. Il y a des gens qui font du bien à l'autre, qui font du bien à la communauté, mais les gens ne sont pas au courant. C'est dommage. Dis aux gens, qui a donné ce super conseil-là à la communauté? Grâce à ça, on a évité beaucoup de problèmes. C'était monsieur tel et tel. Ah, monsieur tel et tel nous a fait cette seront du service. Il faut que les gens le savent. Souvent, on oublie, les gens ils font du bien, on les oublie, mais c'est dommage. Il y a beaucoup de choses comme ça. Gedoula Torah, Shinotenet Chaim le Oseha. Elle est grande, la Torah, elle donne la vie, le Oseha, pour ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi qu'il a fait? qui la étudie, qui la pratique, elle est grande, elle donne la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus que la vie? Be'olam hazeh ou be'olam haba. Dans ce monde et dans l'autre monde. Je n'ai marre comme le texte dit, ki chayim hem le motz'ehem. C'est la vie, le motz'ehem, pour ceux qui les trouvent. Ils trouvent qui? Les paroles de la Torah. Ceux qui trouvent les paroles de la Torah, les mitzvot, eh bien, chayim hem, c'est la vie. Ou le chol besaro marpe. Et toute sa chair va être guérie. Est-ce qu'il faut prendre ça à la lettre? La chair, le corps, c'est la guérison pour le corps. Il y a une vieille question, je pense le Marsha, il demande. Première vue, il y a un stira, la Gemara nous raconte. Celui qui a mal à la tête, eh bien, il y a Asok Batorah, Hash Berosho, il y a Asok Batorah. Mal à la tête, qu'il étudie la Torah, car il est marqué, Haim Hem le Motsem, Alokhol Besaro Marpe. Il a mal à la main, qu'il étudie. Il a mal au pied, qu'il étudie, ça va guérir. Il a mal au ventre, qu'il étudie. Il a mal sur tout le corps, qu'il étudie. Et la Gemara, c'est toujours ce verset. Rifouti, le prochain verset, Vomer, Rifouti, le Sharecha. La Torah, c'est une guérison, le Sharecha, pour ta chair. Le Shikui, la Atzmotecha, un médicament pour tes os. Mais de l'autre côté, on nous dit qu'il ne faut pas utiliser les paroles de la Torah pour la guérison. Les paroles de la Torah sont pour guérir le neshama, pour pas guérir le corps. La Gemara nous dit, quelqu'un qui crache sur une blessure, quelqu'un qui se blesse, alors il crache dessus et il formule un verset. Il murmure le verset sur la blessure avec le crachat. Et bon, ça va guérir. On espère que ça va guérir. La Mishnah nous dit, il n'a pas peur du monde futur. C'est-à-dire genre des guérisseurs. C'est genre de chaman. Un chaman. Comme ils le font, c'est comme il dit le Rambam, pourquoi c'est si grave? Chez Divrei Torah l'onit nous. La parole de la Torah n'était pas pour guérir le corps, mais pour guérir l'âme, pas le corps. Et la Gemara nous dit, celui qui prend un Sefer Torah et on met sur un malade pour le guérir, c'est aussi, c'est interdit. C'est un peu moins interdit que cracher. Là-bas, on dit, il crache et après il dit le verset. Dans ce cas-là, un chassas, qu'on perd un fois bas, c'est qu'il ou c'est complètement dénaturé la Torah. Mais s'il ne crache pas, mais il dit un verset, il murmure un verset sur une blessure, c'est interdit. Mettre un sefer Torah, mettre un sidour sur une maladie, sur la blessure, en disant, voilà, ce sidour, le chomash va guérir, c'est assourd. Seulement, c'est permis pour protéger de ne pas tomber malade, comme on nous dit dans Shavuot. On dit Yosheb Seter Elyon, on dit un Mizmor Tehilim pour ne pas se faire attaquer. Quelqu'un passe un endroit dangereux et il a peur que quelqu'un lui jette une pierre ou je ne sais pas quoi, quelqu'un va le frapper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit Yosheb Seter Elyon, Yosheb Seter Elyon, protège-moi de ça. Eh bien, les paroles de la Torah protègent. La Gemara demande, mais tu as dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Torah pour guérir. La Gemara répond, oui, les migneshani, quand on n'est pas encore malade, et c'est pour protéger, la Torah elle est là pour protéger. Mais quand on est malade, il faut guérir, il ne faut pas utiliser les paroles de la Torah. Alors il y a une kushia, mais de l'autre côté, la Gemara nous dit, ce qui est mal à la tête, il y a Sokba Torah. Ce qui a mal aux pieds, il y a Sokba Torah. Il a mal au ventre, il y a Sokba Torah. Il a mal sur tout le corps, il y a Sokba Torah. Et on se dira, la Torah, ça guérit ou ça ne guérit pas? C'est une kushia. Je pense que le Marsha, il répond, ça dépend si on pense que c'est la Torah directement ou si on pense que Beshrut HaTorah Hashem il aide. Si on pense que la Torah directement aide, ça c'est interdit. La Torah n'est pas du gris-gris. Ce n'est pas un talisman. Ce n'est pas du fétichisme. La Torah, ce n'est pas du fétichisme. C'est une déformation de la religion. Mais si c'est le shrout de la Torah, c'est autrement. Maintenant, comment je peux savoir l'homme s'il parle du shrout ou s'il parle du direct? Est-ce que c'est parce qu'il murmure sur la blessure? L'expression de la Gemara, il dit, il crache sur la blessure. Rokek alamaka ve omer. C'est-à-dire, ils mettent la main où il y a la blessure sur la main, mettent proche de la bouche et murmurent. Mais pourquoi tu mets proche? Si tu demandes, si tu invoques l'aide de Dieu, pourquoi tu mets la bouche proche de la blessure? Tu peux être loin aussi. Toi, tu parles avec Hachem. Hachem, tu veux qu'Hachem lui envoie la guérison. Pourquoi tu rapproches la blessure? Tu n'as pas besoin de rapprocher la blessure. Mettons la Sefer Torah sur l'enfant qui est malade. C'est marqué, on n'a pas le droit. Pourquoi? Tu veux Bishrut à Torah? Si c'est Bishrut à Torah, la Torah n'a pas besoin d'être proche de lui. Si tu mets proche de lui, c'est que c'est quelque chose de direct. Direct, il faut pas utiliser direct. Mettons chaque fois Tehillim, on dit Tehillim pour un malade. Là, Bishrut de Tehillim. Bishrut de Tehillim, c'est un tfila avadaï, on peut. Maintenant, Divrei Torah. Bishrut de Divrei Torah. La marche dit quelque chose, Bishrut de Divrei Torah. Mais quand on dit ce qui a mal au ventre, eh bien, qu'il étudie. Est-ce que, en vérité, il faut aucun geste direct. Il fait aucun geste direct. Mais la masse, c'est le srout, ou le pshatil, qui va oublier peut-être. Peut-être il va oublier parce qu'Hachem il va dire. Mais il veut étudier. Mais il a du mal à étudier quand on a mal. Quand on a mal au pied, on a mal à la main. On a des difficultés de se concentrer. Mais comme il veut se concentrer, il veut étudier, Hachem dit, afin qu'il étudie bien, je le guéris. Peut-être c'est ça le pshat. C'est une aide. Comme il ne peut pas étudier avec du mal, ou c'est difficile à étudier quand on a mal, Hachem, il peut aider que de lui enlever, d'enlever la souffrance. Alors, c'est possible qu'il y a une... Que la Gemara, elle veut dire comme ça, que dans la Torah, il y a une aide de pouvoir la étudier. Ceux qui étudient la Torah, elle vient avec des antibiotiques. Dans la Torah, il y a un antibiotique dedans. Et si tu veux étudier maintenant, et le mal à la tête te dérange, eh bien, la Torah que tu étudies déversera cet antibiotique et tu auras pas mal. C'est un doliprane, tu auras pas mal, afin que tu puisses étudier. Pas parce que la Torah, on utilise la Torah pour guérir. Non, on étudie la Torah pour étudier la Torah. Et la Torah elle-même, elle apporte une bracha qu'elle donne les moyens après pour pouvoir étudier. Vomer, le verset il dit, Vomer, Etz Chaim Hi, c'est un arbre de vie, la Mahazikimba, pour que ceux qui l'attrapent tomberaient à ceux qui la soutiennent, Mouchar, ils seront heureux. Un homme, il donne d'argent pour la Torah. Ça donne une bracha. Pourquoi? Parce qu'Akadesh Baruch Hu, il est intéressé que la Torah existe. Donc, si Akadesh Baruch Hu, il voit que toi, de ton argent, tu donnes à la Torah, alors Akadesh Baruch Hu, il dit, ah! Cet outil, c'est un bon chaliach pour soutenir la Torah. Alors, je lui donne encore de l'argent. Chassadim, pour Torah, pour mitzvot, ma'asim tovim. Un homme qui donne de son argent pour de ma'asim tovim, gimnot chassadim. Si tu as un bon gabbai tzedaka, comme on dit, Hachem, il cherche des bons gabbai tzedaka. Il cherche des gens honnêtes. Et quand Hachem leur donne la richesse, cette richesse, ils investissent dans ce que Hachem veut. Et si l'homme il fait son travail comme il faut, Hachem lui donne bracha. Donc, la Torah donne du chayim par nature des choses. On n'a pas besoin de s'approcher comme gris-gris. Pas besoin de mettre la Sefer Torah dessus comme si c'est du gris-gris. L'Omer, la pasouk, il dit, ici il est marqué, Etz chayim hi la machazikimba, c'est un arbre de vie, la machazikimba. Il y a deux traductions. Donc, on traduit machazikimba. Ce qui marzik la Torah, C'est-à-dire, il donne de son argent à la Torah. Il y a un autre pirouche, je pense, de Reb Chaim Volozhin, la traduction « Machazikim »« Bah, ils attrapent la Torah ». De quoi ils attrapent la Torah? Imaginons quelqu'un, il est tombé dans l'eau, a peur de se noyer. Alors, il trouve un morceau de bois. Il attrape le bois, ça y est, il ne coule pas. Il s'attrape au bois pour ne pas couler. C'est le bois qui fait qu'il ne coule pas. La Torah, Etzraimi, c'est un bois qui donne la vie. L'amachazikim, bah, pour ceux qui s'attrapent à la Torah. On s'attrape à la Torah pour ne pas se noyer. Se noyer, noyer dans quoi? Il y a beaucoup de choses qu'on peut se noyer dans ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de tsarot, il y a des avérot, il y a des idées fausses, il y a des comportements qui sont tordus. Il y a beaucoup de choses tordues dans ce monde. Et les gens, ils peuvent se noyer, on peut se perdre. Il faut attraper une bouée de secours. La Torah, c'est une grande bouée de secours, Vadaï. Alors, Etzraimi, c'est un bois qui donne la vie, la Machazikimba, pour ceux qui s'attrapent. Le Tumrea et ceux qui la soutiennent, la Torah, Mouchar, ils seront heureux. Il y a les deux choses. La Torah te donne à toi la vie. Toi, tu aides à la Torah d'exister. Vomer, le pasuk qui dit que Liviat, Chen, Hem, le Rochecha. Liviat, un accompagnement, Chen, de charme, de grâce. Le Rochecha pour ta tête. Si tu as la Torah, ça te donne du charme. Va Anakim, et ce sont des chaînes autour de Gargorotecha, autour de ton cou, une chaîne, un pendentif. C'est une image. Vomer, le pasuk qui dit Titen, le Rochecha, Liviat, Chen. Donne à ta tête, Liviatren, un accompagnement de charme. Ateret, tiferet, te magneka. Ateret, une couronne, tiferet, de gloire, te magneka, qui va te protéger. Une couronne qui protège. Ça, c'est la parasha de cette semaine, la parasha des couronnes, pas des corona, mais des couronnes. Dans parashat de Nassau, on parle du nazir. Nezer, elle au cave al rocho, la couronne de son Dieu, elle est sur sa tête. Le nazir, il laisse pousser ses cheveux, il ne boit pas du vin. Alors il y a une couronne divine sur sa tête, et il s'appelle nazir. Nazir, ça veut dire séparer, se séparer du vin, se séparer de ces bêtises de ce monde, séparer, se priver de plaisir. Alors ça donne une couronne. Pourquoi une couronne? Une couronne, c'est l'expression de la royauté. Le roi, c'est le contraire de l'esclave. Le roi est l'esclave. Or, les êtres humains qui sont soumis à la domination du Yetzer Hara sont des esclaves. On a vu dans la Mishnah, en lecha ben chorin el misho sekba Torah, c'est de se séparer du Yetzer Hara, de sortir de l'esclavage vers le Yetzer Hara, c'est lui l'homme qui est libre. Donc le nazir, pourquoi un homme il fait nazirut? Parce qu'il a une certaine tendance vers l'alcool, il a une certaine tendance de se regarder dans son miroir, il se regarde toujours pendant une heure dans le miroir pour voir qu'il est beau, il fait beau, les cheveux, etc. Il dit, c'est pas bon pour moi. Alors, je vais pousser comme un sauvage les cheveux. Je veux plus, je veux me débarrasser de cette beauté, de ce regard que j'ai sur moi. Alors, donc quoi? Il veut sortir de son esclavage. Donc, il devient un roi. Il se met une couronne sur la tête. Ça, c'est le nazir, Nezer Elokav. Ici, le pasuk qui dit, Libiatren, le rochra, Libiatren, mette sur ta tête. La Torah, prends la Torah, et c'est Michelet là-bas. Michelet, il parle au nom de la Torah, c'est la Torah qui parle. Titel Rochra, donne à ta tête, Liviatren, un accompagnement qui donne le charme à ta tête. À terre est une couronne qui fait de gloire. La Torah, c'est une gloire. De Magneka, elle va te protéger. Cette couronne, elle va te protéger. Mais en mer, le pasuk, il dit, Orech yamim bimina bisemola oshavechavot. Orech yamim, la longue vité bimina, elle se trouve à sa droite. Bisemola, à sa gauche, hoche richesse, vekavod et de l'honneur. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Il y a la droite et il y a la gauche. De quoi? De la Torah. Comme il y a la côté droite de la Torah, il y a la côté gauche de la Torah. Il y a deux parties dans la Torah. Alors, Orech Yamim Bimina, la côté droite de la Torah, il y a Orech Yamim, la longévité. La longévité dans ce monde, et bien, Icar, longévité dans l'autre monde. Le vrai Olam Abba, le Olam Ba'ed, le Orech Yamim, le Man, Yarichun Yamecha, Ve'arachta Yamim, Zu Olam Abba. Le vrai Olam Abba, il se trouve Bimina, sur la côté droite de la Torah. Bismola, la côté gauche de la Torah, il se trouve quoi? Osher de la richesse, Vechavod et de l'honneur. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Osher, Vechavod ou Orech Yamim? Alors, ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent Osher Vechavod. On veut dans ce monde la richesse et de l'honneur. Il y a des gens qui préfèrent Orech Yamim. Alors, ça dépend s'ils font la droite ou ils font la gauche. Alors, qu'est-ce que c'est la droite? Qu'est-ce que c'est la gauche? Dans la Torah, il y a deux parties, droite et gauche, mais je veux bien. Alors quoi? La Gemara nous dit l'ishma ou shelo l'ishma. Il y a l'étude ou l'application de la Torah, l'ishma, pour la Torah. Et il y a shelo l'ishma, pour un autre intérêt. Alors si l'intérêt il est l'ishma, alors ça, tu travailles sur Orech Yamim. Là, c'est dans l'Olam Abba. Si on travaille sur Osher Bechavot, on travaille à gauche, l'Olishma, pour un autre intérêt, on a aussi un bénéfice. Le bénéfice, il est Osher Bechavot. Maintenant, comment nous sommes? Nous, on pense pour à droite, on pense à gauche. Alors, on pense pour la Torah, pour autre chose de la Torah. Mais ça va un peu comme ça, un peu comme ça, probablement plus ou moins, un peu à droite, un peu à gauche. Rashi explique un peu autrement le droite et la gauche. La droite, c'est avec toute sa force. Mais Rashi ajoute quelque chose. La main droite, elle est puissante. La main gauche, elle est faible. Donc, la droite de la Torah, c'est-à-dire avec ta droite, tu cherches de la Torah, avec toute la puissance. Avec la gauche, ça veut dire faiblement. Rashi ajoute quelque chose. Cherchez la raison. Chercher la profondeur, chercher à comprendre jusqu'au bout, c'est ça l'ishma. L'ishma b'chol kocho, avec toute ta force, la avin ta'amo shel davar, de comprendre la chose. Et la gauche, c'est quelque chose de superficiel. Sauf pasuk, c'est, d'après tous les pshatim, c'est un peu différent. Est-ce que gauche, ça veut dire superficiel, et il cherche faiblement, et pour un certain intérêt, tout ça, ça s'appelle gauche. Et ça donne richesse, ça donne de l'honneur. Maintenant, il existe la droite avec toute sa force. Et bien comprendre jusqu'au bout. Et pour la Torah elle-même, ça c'est le côté droite. Maintenant, l'homme il peut faire un peu ça, un peu ça. Un peu faible, un peu fort. Un peu je veux comprendre, un peu je veux plutôt. Et un autre intérêt, je veux du kavod, d'autres choses, un peu ça, un peu ça. Donc, ça donnera à l'homme un peu d'Orech Yamim, ça donne un peu Osher Bechavod, etc. Mais elle donne. Mais comme ça, la Torah te donne. Vomer, la pasuk, il dit que Orech Yamim, Ushnot Chayim, Veshalom Yosif Olach. Orech Yamim, la longévité, Ushnot Chayim, et la vie de l'année, Veshalom et du paix, Yosif Olach. On va te ajouter. La Torah ajoute pour l'homme de la vie, de la paix, ça ajoute. On a terminé cette Mishnah. Il nous reste encore combien de Mishnayot? Il nous reste encore 1, 2, 3, je ne sais pas, 3, 4. On va encore faire Bezat Hashem demain, après-demain.